Voilà, bonjour. Vous invite à prendre place et à entrer dans ce culte avec une petite introduction musicale. Voilà, bonjour à chacun en ce jour ensoleillé, le dernier dimanche de septembre. On se croirait encore en été. Bonjour à chacun dans votre diversité, diversité d'âge. On a ces joyeux enfants devant nous ce matin. Des gens qui ont du soleil aussi dans le cœur, puis d'autres qui ont peut-être de la tristesse dans le cœur ou des découragements. Dieu nous accueille tous ce matin. Nous sommes là pour nous tourner vers Dieu, pour lui dire notre reconnaissance, mais aussi pour recevoir une parole. Une parole qui nous est transmise à travers ce livre qui est la Bible, hein, qui est très ancien. Parole qui nous interpelle, une parole qui nous libère et qui nous remet debout. Une parole qui nous encourage quand on a besoin d'être encouragé. Merci à chacun de ceux qui ont participé à la préparation de ce culte. Merci à David Porter et à Lionel et Prisca. Voilà, Lionel et Prisca Schmidt qui l'accompagnent. Et puis, il y a tous ceux qui ont préparé la technique, il y a ceux qui ont fait de la décoration, il y a ceux qui ont sonné la cloche, je pense. Il y a plein de gens qui participent, qui font qu'on est ensemble pour que tout roule pendant qu'on est là pour célébrer ce culte. Bienvenue aussi à la famille Terra, qui est là et qui y aura un temps pour présenter leur petit Noam. Et nous allons commencer par chanter un chant, après quoi il y aura ce temps de présentation. Mais avant ça, je vais peut-être remettre ce culte dans la prière. Notre Dieu, notre Père, nous remettons à toi pour ce moment de culte. Nous te prions que tu nous fasses sentir ta présence à chacun de nous, dans quelque situation que nous soyons, quel que soit l'état de nos sentiments, de notre foi, tu nous accueilles tous. Merci, notre Dieu. Amen. Voilà, j'invite notre équipe à nous entraîner dans un premier chant.
Qu'on l'a acclamé roi, alors qu'il était sur une âne. Mais on a chanté un mot Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc nous allons chanter Hosanna pour acclamer Jésus notre roi ce matin. Donc je vous invite à vous lever, nous allons chanter ensemble.
nos rois, ô Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Marchons ensemble,
l'ennemi tremble,
l'ennemi tremble.
Dieu est avec nous,
Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire.
Dieu de gloire,
lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire,
lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Philippe Anchaud à nous rejoindre.
La famille Terra au grand complet. Et puis, je vais demander aussi aux parrains marraines, Thomas et Véro Diebold, si vous... Thomas est là.
On a eu un léger souci, donc Véro me cherche, mais tout va bien.
Et toi, tu cherches Véro ?
Comme tu vois, non, absolument pas. Non,
mais c'est l'affaire d'une vie.
Elle est en vélo dans le canton, elle arrivera un jour.
Non. D'accord.
Oui, mais comme j'ai eu un souci, bon, bref.
On est heureux de vivre ce temps dans la simplicité. C'est le moment de présenter Noam au Seigneur qui le connaît déjà et depuis longtemps, et à l'Assemblée qui connaît probablement un peu Noam et en tout cas ses parents, parrain, marraine également, frères et sœurs. Nous sommes là dans une tradition très ancienne. Quand je dis très ancienne, on parle d'une tradition qui remonte à l'histoire du peuple d'Israël, à la louche 5 000 ans. Autant dire que, enfin, il y a des racines dans une tradition comme celle-ci. Et quand je dis que c'est une tradition, c'est que c'est une tradition aussi qui, avec le temps, avec le Nouveau Testament, avec l'histoire de l'Église, a forcément été un peu adaptée. Parce que dans la tradition historique, on présente effectivement les petits garçons, et les petits garçons seulement, parce que la présentation elle est accompagnée de la circoncision. Et ça se fait à 6 ou 7 jours après la naissance. Donc là, on a un tout petit peu explosé le calendrier, puisque Noam a 13 mois. 13 mois, Noam. T'es déjà un beau gars pour 13 mois. Ça promet. Nous adaptons la tradition, mais nous voulons en garder l'état d'esprit. Et je vous propose que nous gardions l'état d'esprit dans 2 directions principales. La première, c'est que nous voulons rappeler à Dieu qui a créé la vie tellement précieuse de Noam, que nous aimerions que Noam, un jour, confesse son nom. Que la circoncision ne soit pas celle de la chair, mais celle de son cœur, celle de l'intériorité. Et que Noam devienne un jour un jeune homme, un homme mûr, qui craigne et qui aime le Seigneur de tout son cœur. Un jour, le choix, il l'opérera lui. Mais nous pensons en particulier à ses parents, qui sont invités, selon les proverbes, à le conduire sur les chemins de la connaissance de Dieu. Et puis, nous allons dans une deuxième direction qui était aussi une des dimensions de la tradition de cette vieille histoire du peuple d'Israël, c'est que nous présentons Noam dans une communauté. Des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des moins jeunes, qui sont appelés à se serrer les coudes, à être solidaires les uns des autres, à prier les uns pour les autres, à encourager les uns les autres. Et je pense qu'il y aura de quoi s'encourager les uns les autres, puisque là, pour l'instant, tout va bien, ils sont super mignons. Mais les enfants, ça grandit, ça devient ado. Et ça peut être un moment où une assemblée en particulier est invitée à prier les uns pour les autres. Alors, on va le faire tout simplement. Mais on aimerait vraiment pouvoir prier pour Noam. Et je vais demander à une maman, à une grand-maman, à une membre de notre conseil de bien vouloir venir prier avec moi. C'est Elisabeth qui va prier et elle et moi, nous allons prier pour Noam. Et puis si le parrain, les parents, les frères et sœurs souhaitent prier pour leur petit frère, eh ben il y a la possibilité aussi. Mais Noam, on veut te recommander à la grâce de Dieu. On aimerait que tu sois un garçon qui grandisse dans la présence du Seigneur et qui te fasse du bien pendant toute ta vie comme il l'a promis. Alors je vais prier et puis je laisserai ensuite, si les parents, le parrain souhaitent prier ou les enfants, c'est possible aussi. Et puis Elisabeth conclura ce moment-là. Cher Seigneur, je te recommande Noam. Merci pour la vie de ce petit garçon qui t'est déjà précieux depuis longtemps. Mais Seigneur, je sais que toi, tu souhaites un jour habiter sa vie et l'encourager dans tout ce qui va faire les chemins de son existence. Alors Seigneur, s'il te plaît, dépose ta grâce sur lui et renouvelle les ressources aussi de Thierry et Rebecca. Merci de les encourager en tant que parents, de renouveler leur force, leur patience et leur sagesse. Merci pour les grands frères et sœurs de Noam. On te prie aussi de les réjouir dans ce qu'ils vivent. Et je te demande cela dans le nom précieux de Jésus. Amen.
Ouais, Seigneur Jésus, on te remercie pour chacun de ces cadeaux que tu nous as donnés en famille. Et merci tout particulièrement aujourd'hui pour Noam. Je te prie que tu nous aides en tant que parents à l'élever dans tes voies, à discerner les dons que tu as placés en lui, à l'aider, à le conduire sur le chemin que tu as préparé aussi pour sa vie. Que nous puissions être un exemple, que nous puissions te représenter dans sa vie. Merci de nous remplir de grâce, de patience et de tous les fruits de ton esprit pour que nous puissions l'élever au plus proche de ce que tu veux pour lui. Amen.
Merci Seigneur pour Noam que tu as confié à Thierry et Rebecca. Seigneur, nous te demandons que tu l'accompagnes tout au long de sa vie, que tu donnes aussi à ses parents la sagesse pour le conduire. Te remettons aussi son frère, ses sœurs, pour qu'ils puissent vraiment s'entraider dans la famille, qu'ils puissent avoir vraiment de l'amour et de l'entraide. Et nous te prions aussi qu'en tant que communauté, nous sachions aussi entourer ces enfants que tu nous confies. Ce n'est pas seulement le rôle des parents, mais qu'en tant que communauté, nous soyons à l'écoute et que nous puissions aussi les entourer. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ces enfants que tu nous donnes, que tu nous confies. Et Seigneur, nous te les confions encore en toute confiance, vraiment que tu vas être avec eux, que tu vas les aider, que tu vas nous aider aussi. Amen.
Amen.
Ouais, Seigneur, merci pour Noam. Je te prie qu'il porte toujours aussi bien le gilet et la cravate. Je te prie que tu lui donnes la joie, l'envie de découvrir ses frères et sœurs. Tu l'as déjà béni, c'est le dernier, hein, Vénard. Et je te prie que tu lui donnes une place de choix dans sa famille et qu'il puisse grandir à te découvrir et à t'aimer. Amen.
Que la bénédiction de Dieu repose sur toi, Noam, et puis sur tes parents, sur tes frères et sœurs. C'est bien d'avoir un petit et d'être les plus grands. Ça le fait ? Ah, on est un chouïa timide, hein ? Alors que le Seigneur vous réjouisse en famille. Et bienvenue dans cette communauté, Noam. J'aimerais juste en profiter 3 secondes, non, reste seulement, pour saluer André et Zara avec leur petit Kian. Est-ce qu'ils sont là ? Moi, je vois rien avec mes lunettes de courte. Levez-vous, s'il vous plaît. André, Zara et le petit Kian, 2 mois.
Il a l'air, ouais, il a l'air tout neuf. Hein, ouais. Voilà, alors tous ces joyeux enfants qui sont là devant, vous allez où tout à l'heure ? Hein ? Les enfants là, vous allez où ? Tout à l'heure, vous allez partir où ? Vous savez ou vous ne savez pas ? C'est où ? C'est une surprise. Ah, c'est une surprise. Alors on va. Ok, alors on se réjouit de vous entendre, vous aurez appris aujourd'hui. En tout cas, vous avez la chance d'avoir beaucoup de soleil pour votre sortie. Alors, vous allez tout à l'heure rejoindre vos moniteurs qui vont vous emmener pour une belle sortie et on va prier pour vous et pour les moniteurs. Voilà. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tous ces enfants qui enrichissent nos familles. Merci pour ces moniteurs qui se mettent au service de l'Église, en s'occupant des enfants, en vivant pour leur transmettre l'essentiel de la foi. Nous te prions que tu les accompagnes, que tu les accompagnes dans cette journée, dans cette sortie. Et nous te prions que tu les accompagnes dans leur parcours de vie, pour qu'ils puissent apprendre à te connaître et à t'aimer. Nous te prions pour les parents, pour que tu les accompagnes dans leurs tâches de parents. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te les remettons. Amen. Voilà, nous allons passer un temps maintenant de louange, comme nous disons. Les enfants, vous pouvez partir là ? Oui ? Voilà, on vous laisse. Voilà. Un temps de louange simplement pour dire merci à Dieu, mais aussi c'est une manière de prier, c'est une manière d'écouter.
puisque c'est notre Sauveur, notre Roi, qui nous invite justement à le louer. J'aimerais lire ces quelques versets de psaume 24. « Relevez vos frontons aux portes, haussez-vous vos portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'Éternel, vaillant dans les combats. Relevez vos frontons aux portes, haussez-vous vos portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? Le Seigneur des armées célestes. C'est lui, le roi glorieux. » Nous voulons chanter justement de ce roi qui est Père, Fils et Saint-Esprit, qui d'âge en âge règne et qui nous invite à passer du temps avec lui ensemble ce matin. Le roi dans sa splendeur.
Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir, au son de sa voix, au son de sa voix, ô Dieu. Commencement et fin, le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine,
le lion et l'agneau, le lion et l'agneau.
Ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, et tous verront, ô Dieu.
Glorieux également notre Sauveur qui a tout fait pour payer pour notre péché, pour nos péchés, pour que nous soyons libres. Et c'est devant lui que nous voulons venir, devant le trône de Très-Haut, mon défenseur, celui qui a tout fait pour moi, mais qui aussi prie pour moi aujourd'hui.
Sera plaidé, cet avocat s'appelle.
sainte âme fait douter, viens me tenter et m'accuser. Je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais,
ni ma justice, mon bien, ma paix.
Oh, la vie, je vis éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu.
Nous allons bientôt prendre un temps ouvert pour remercier Dieu à haute voix pour qui il est, pour ce qu'il a fait pour nous. Et nous allons juste entamer un chant juste avant. Majesté, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée.
Couvert par ta grâce illimitée, me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Notre Sauveur pour qui il est.
avant que Selena vienne nous partager le message, nous allons chanter ensemble une prière pour nous préparer pour écouter la parole de Dieu, un chant que vous avez entendu il y a quelques semaines. On va chanter ensemble, peut-être c'est nouveau pour, je pense, presque tout le monde, mais c'est assez facile. Dès que vous êtes à l'aise, vous pouvez vous joindre à nous. Si vous le connaissez déjà, vous pouvez nous joindre dès le début. Parle-nous, nous venons à toi recevoir le pain, ta parole sainte.
Parle-nous, nous venons à toi recevoir le pain, ta parole sainte. Viens, Seigneur, par la vérité, modeler nos cœurs à ta ressemblance, et que ta lumière aujourd'hui rayonne par l'amour, la foi que nous manifestons. Parle-nous, accomplis, Seigneur, tes projets en nous pour ta gloire. Apprends-nous à te révérer, à mieux t'obéir, à nous humilier par l'éclat de ta
Voilà, c'est un grand plaisir d'accueillir Selena Imhoff, qui en plus habite à quelques pas de chez moi et qui effectue un stage pastoral dans notre église et qui va nous apporter un message de la part du Seigneur.
Thank you. Lévitique 23, 23 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Ce soir commence le premier jour du mois de Tichri dans le calendrier hébraïque. C'est la fête des trompettes, comme l'appelle la Bible. C'est aussi Rosh Hashanah, le nouvel an juif. L'an 5780 commence ce soir. C'est au son de la corne d'un bouc, d'une trompette, d'un chauffard, qui a inauguré ce temps. Voilà pourquoi on l'a entendu ce matin. Le mois de Tichri est un mois de célébration. Cela commence avec le nouvel an, la fête des trompettes, puis du jour après, la fête du grand pardon, le Yom Kippour, et enfin, la fête des cabanes, qui est une apothéose, une fête de joie. Toutes ces célébrations sont pour les Juifs des rendez-vous divins. Mais ce qui me marque le plus avec cette période du mois de Tichri, c'est qu'on appelle ces jours traditionnellement pour les Juifs des jours austères, des jours terribles, des jours de jugement de Dieu. Car en effet, le jour de Rosh Hashanah marque le début de 10 jours de repentance, jusqu'au jour du grand pardon. Et par repentance, cela signifie surtout une remise en question de notre être, de qui on est, de notre relation avec Dieu, avec les autres, de nos actions, de nos paroles. Et ce matin, j'aimerais, au travers d'un texte d'Hébreu, aborder le sujet de la repentance et du pardon. Alors, d'entrée de jeu, on peut se dire, bon, la repentance, c'est pas le sujet le plus agréable du monde. Et si vous pensez ça, je peux pas vous donner tort. Et je pense aussi, quelque part, c'est peut-être un peu l'avis de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Donc écoutez ce passage de Hébreux 4 et vous comprendrez ce que je veux dire. Hébreux 4, 11 à 13. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit, et des jointures ainsi que de la moelle, elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. L'épée à double tranchant. C'est ainsi que se représente la repentance pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux. L'épée, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me donne une image, c'est comme si ça me faisait mal, rien que d'y penser. Alors, j'aimerais d'abord replacer le texte dans le déroulé de la pensée de l'Épître aux Hébreux. Le but d'origine de cette épître, c'est que ces lecteurs qui étaient d'origine juive puissent s'accrocher à Jésus en le confirmant comme étant celui qui accomplit la loi de l'Ancien Testament, celui qui était attendu depuis si longtemps. Jésus surpasse toutes les grandes figures de l'Ancien Testament. Il est digne de confiance et de foi. Et quand il appelle, quand il nous appelle, on peut se confier en lui, on peut avoir foi en lui. Juste avant le passage que je viens de vous lire, l'auteur avertissait sur le fait de ne pas passer à côté du repos de Dieu par désobéissance ou incrédulité. Au verset 7, il dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Lors du périple dans le désert, après la sortie d'Égypte, les Hébreux s'étaient rebellés à la parole de Dieu donnée au travers de Moïse. Ils n'avaient pas cru en cette parole et n'avaient donc pas pu atteindre la terre promise par Dieu, c'est-à-dire son repos. Le texte des Hébreux cherche vraiment à souligner ici la fiabilité de la parole de Dieu. Elle est digne de confiance et surtout, elle est indispensable pour atteindre le meilleur de ce que Dieu veut nous offrir. Mais cette parole a aussi l'effet d'une épée très affûtée. Elle peut tout trancher, ce qui est visible et ce qui est invisible. Alors je ne cherche pas ici à faire de l'anatomie spirituelle en disant que l'être humain est corps, âme, esprit. Je ne pense pas que c'est sur ça que se focalise ce texte. Je pense surtout que ce verset nous montre que la parole de Dieu agit là où personne ne peut agir sans faire des dégâts. La parole de Dieu est fine, elle est précise. Elle va agir dans les endroits les plus reculés et les plus refoulés de notre être. Et là, on est exposé aux yeux de Dieu. Cette parole qui est donnée est indispensable pour vivre ce temps de repentance. Et je tiens à souligner ici que la repentance dans la Bible n'est pas là pour nous faire culpabiliser ou nous diminuer, comme si on devait se dire au final qu'on est nul, qu'on ne sert à rien, qu'on n'a pas de valeur, qu'on ne mérite pas d'être aimé. La repentance n'est pas une autocondamnation. En hébreu, la repentance se dit « tshuva ». On va faire tshuva, c'est-à-dire un retour, une réponse. C'est de cela qu'il s'agit à Rosh Hashanah ou à la fête des trompettes. Le retour ou la repentance est une offre incroyable offerte pour revenir à Dieu, pour corriger une fausse trajectoire ou une mauvaise direction qu'on aurait prise. Et c'est aussi dans cette pensée-là qu'est abordé le péché dans la Bible. Le péché ou péché, chet, ça veut dire manquer. Comme si on manquait une cible lorsqu'on avait mal visé quelque chose. Et la repentance, la tshuva, c'est la possibilité de corriger le tir, de mettre dans le mille, c'est-à-dire, c'est avec Dieu que cela se vit, cette repentance, grâce à sa parole. Le don de la parole de Dieu n'est pas un acquis. On pourrait le penser aujourd'hui finalement avec nos Bibles, on en a tellement, de tant de traductions, de tant de langues différentes. Mais dans la Bible, la parole de Dieu a l'équivalence de la présence même de Dieu. Tout au long de l'Ancien Testament, il y a cette relation de « je t'aime moi non plus » entre le peuple de Dieu d'une part et sa parole. Par exemple, quand vous lisez les prophètes, on va voir un peuple avide de recevoir la parole de Dieu, l'oracle de Dieu, mais quand cette parole les remet en question, en dénonçant certaines choses, c'est là qu'on va voir les grandes tragédies de l'Ancien Testament se dérouler. Mais cela ne change pas le fait que lorsque Dieu parle à son peuple, c'est comme s'il venait le visiter en personne. Et là, on voit concrètement ce que veut dire l'auteur de la lettre aux Hébreux en parlant de l'effet de la parole. Dieu se rend disponible. Il vient nous visiter au plus profond de nous-mêmes et sa parole est vivante et efficace. Sa parole est vie, comme le disait Jean au début de son épître. La parole est Dieu. Elle est-elle la vie et la vie est-elle la lumière des hommes? La parole est devenue chair et elle est venue habiter parmi nous. Jean ne nous dit pas autre chose que la parole, c'est Jésus. Quand Jésus est entré dans votre vie, qu'est-ce que cela a changé pour vous? Avez-vous vu votre vie réorientée d'une manière ou d'une autre? Pour ma part, Jésus est rentré très doucement dans la mienne vers l'âge de 18 ans. Et c'est vrai que peu à peu, il m'a illuminée de cette espérance qui ne réside qu'en lui seul. Alors évidemment que ça a changé ma manière d'être avec les autres, ma manière de me percevoir, ma manière de comprendre le monde comme étant sa création. Et c'est avec ça en tête et avec la manière dont Jésus se révèle que je peux à mon tour me remettre en question et me corriger, même si je l'avoue, ce n'est pas facile. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes ceux qui le représentons dans ce monde, dans sa création. Et porter l'honneur d'être à son image implique la responsabilité de faire de temps à autre des réglages dans notre vie pour continuer à être ce pourquoi nous avons été créés, ce pourquoi nous sommes vivants. Et si, alors que nous faisons ce travail de repentance, nous pouvons de temps en temps nous trouver à côté de la plaque, que nous avons loupé la cible, que nous avons eu des manquements, c'est-à-dire que nous avons péché, simplement, alors, quoi ? Vous pensez quoi ? Est-ce que nous sommes bons pour la poubelle ? Quelle conclusion peut-on retirer d'un constat d'échec ? Alors, une fois encore, c'est à Dieu, le Créateur, d'en juger, et non à nous-mêmes. Nous, notre job, c'est de lui rendre compte de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Et c'est précisément quand on arrive à ce stade-là de la repentance, à ce point-là, que le grand pardon entre en jeu. Je poursuis la lecture d'Hébreux en finissant le chapitre 4. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Nous voilà au Yom Kippour, le jour du grand pardon, 10 jours après la fête des trompettes. C'est un jour très important pour les Juifs car de ce jour dépend leur communion avec Dieu pour le reste de l'année. Le pardon est important pour pouvoir se présenter devant Dieu. Le jour va suivre une liturgie religieuse très rigoureuse. C'est le jour où le grand prêtre entre dans le lieu très saint, le saint des saints, le lieu le plus sacré d'Israël et même le plus sacré sur terre. Le lieu où Dieu est censé résider parmi son peuple. Seul le grand prêtre a l'autorisation de s'y présenter afin d'offrir des sacrifices et seulement ce jour-là. Le grand prêtre est le grand représentant du peuple de Dieu dans le judaïsme à l'époque où le temple était encore édifié à Jérusalem. Il se devait d'être exemplaire, évidemment. Ce qui me fait d'ailleurs douter d'un grand prêtre dont il est parlé dans les évangiles. Celui qui était en fonction au moment de la mort de Jésus, Caïphe, lui, il était corrompu, totalement. Il a falsifié le procès contre Jésus pour l'envoyer à la mort. Alors il est évident que ce n'est pas à Caïphe qu'il faut penser lorsque l'Épître aux Hébreux nous parle du grand prêtre. Le grand prêtre dont il est question ici est doté de la capacité de compatir à nos faiblesses. Il est digne de confiance et il ne va pas faire un procès à charge contre nous. Mais au contraire, il va plaider notre cause à Dieu pour recevoir la grâce. Au jour du pardon, le grand prêtre transmettait ses péchés à un taureau qui sera ensuite sacrifié. Après cela, il se rendait à l'intérieur du temple, dans le lieu très saint, où il offrait un sacrifice d'encens et faisait l'aspersion du sang du taureau pour présenter une offrande à Dieu afin d'obtenir le pardon pour le peuple. Le peuple, quant à lui, restait à l'extérieur, dans la prière et surtout dans l'immense crainte de ne pas revoir sortir le grand prêtre vivant du temple. Car il est bien sûr impossible de se trouver dans la présence de Dieu sans y laisser la vie, excepté ce jour-là pour le grand prêtre. Si le grand prêtre ne ressortait pas vivant, ça voulait dire que le pardon n'avait pas été accordé. L'Épître aux Hébreux va présenter Jésus comme étant le grand prêtre et le sacrifice ultime durant 5 chapitres. Voyez l'importance du sujet. Et là, dans ces 3 versets d'introduction, voilà comment Jésus est caractérisé. Jésus, le grand prêtre, a traversé les cieux. Jésus n'est pas entré dans un temple de pierre. Il est le grand prêtre de la création, temple, ciel et terre. Il est allé au ciel pour se trouver auprès du Père. Et c'est sur ce fait, sur l'ascension, que notre foi nous permet d'être sans crainte pour s'approcher de Dieu. Vous vous rappelez la grande peur que ressentaient le peuple et le grand prêtre face à la présence de Dieu ? Pour Jésus, on nous parle d'assurance, parce que Jésus n'a pas eu besoin de transmettre ses péchés au taureau. Il est sans péché, bien qu'il ait vécu toutes les tentations qui pouvaient le faire dévier de son parcours, de sa vocation. Il n'a jamais manqué le coche. Il n'a jamais péché. En ayant cette foi en Jésus, sur sa vie, sur ce qu'il est, nous n'avons plus de crainte de mourir dans la présence de Dieu. Et c'est ce que signifie la phrase « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et grâce pour être sauvés ». Le trône de grâce, c'est aussi une autre manière de parler de cette partie de l'Arche de l'Alliance où se situait la présence de Dieu dans le temple. Jésus nous a obtenu le pardon, c'est un fait. Le mot « kippour » de Yom Kippour vient d'un verbe hébreu qui signifie « couvrir ». Jésus nous couvre devant Dieu. Jésus a recouvert notre dette devant Dieu. Jésus a pallié à nos manquements. Être humain, fait à l'image de Dieu, ce n'est pas une mission que l'on doit accomplir seul. C'est sous le couvert de Jésus que cela se vit, en étroite relation avec lui. Pourrions-nous trouver un moyen meilleur que celui-là ? Allons-nous fuir face à la parole de Dieu, face à la visite de Dieu dans nos vies ? Je crois sincèrement que ce pardon qui nous est offert nous aide chaque jour à vivre autrement nos relations, nos défis du quotidien. Car contrairement à l'auto-condamnation qui nous ferait croire que l'on ne vaut rien, l'intervention de la parole de Dieu dans nos vies nous montre l'estime qu'il nous porte, autrement dit, son grand amour pour nous. Jésus couvre nos fautes. À nous de ne pas fuir comme quand nous sommes mis à nu par sa parole. Donc, si nous sommes là, dans la présence de Dieu, c'est que nous vivons de ce pardon. Et là, peut-être que vous me voyez venir gros comme un camion sur le pardon qu'on accorde aux autres. Le pardon accordé à celui qui m'a trahi, qui m'a rejeté, qui m'a manipulé, qui m'a fait tant de mal, qui a fait du mal à des gens que j'aime. Notre pardon est un don si précieux qui est très difficile à accorder. Mais peut-être que le pardon que nous avons reçu de Dieu peut couler assez abondamment dans notre cœur pour nous donner la force de pardonner à notre tour, ou en tout cas nous donner la force d'amorcer quelque chose dans cette direction-là, pour vivre la restauration et la reconstruction dans tous les domaines de nos vies. Alors, que la parole de Dieu puisse résonner comme une trompette dans nos cœurs, que l'Esprit puisse nous donner le courage de ne pas fuir et l'assurance de notre foi en Jésus et au pardon accordé par notre Père. Amen.
A choisi ce chant que nous allons chanter maintenant. Allons auprès de Dieu, le cœur rempli d'assurance, approchons-nous du trône de grâce et Dieu viendra vers nous. Ça pourrait être nouveau pour certains, c'est assez facile à chanter.
Dieu venu nous visiter en personne, en Jésus-Christ, dans nos vies aussi. Nous passons à ce temps de... Nous parlons de communion parce que nous nous mettons en communion avec Jésus qui a donné sa vie, le cœur de l'Évangile, mais aussi en communion avec des frères et sœurs près d'ici ou plus loin, qui se réunissent à ce même cœur de l'Évangile. Ici, dans l'église voisine, au centre paroissial œcuménique, dans d'autres églises de Genève, dans beaucoup de pays du monde. Au moment où arrivait la fête de la Pâque, Jésus dit à ses disciples, « Vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans 2 jours. Le Fils de l'homme va être livré pour être cloué sur une croix. » Alors les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif se réunirent dans le palais de Caïphe, le grand prêtre. Ils prirent ensemble la décision d'arrêter Jésus en cachette. Et le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent demander à Jésus : « Où veux-tu que nous préparions le repas de la fête ?» Et Jésus leur a donné ses instructions. Puis ils se réunissent pour le repas. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, « Prenez et mangez ceci, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête. Puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Oui, notre Dieu, notre Père, nous nous souvenons de cette vie donnée, pour le pardon des péchés, de cette vie donnée pour réparer notre communion avec toi, et avec notre prochain. Amen. Nous allons partager le pain et le vin. Est-ce que les musiciens peuvent nous aider peut-être dans la distribution ? Pour le vin, il y a les plateaux avec au milieu du jus de raisin. Et pour ceux qui souhaitent le prendre à la coupe, levez simplement la main et on vous amènera la coupe. Pendant ce temps, vous pouvez librement exprimer une prière ou un témoignage si voilà, vous avez quelque chose à cœur. Nous allons conclure ce temps de Sainte-Cène avec la prière que Jésus nous a apprise. Nous allons la prier en la chantant. Et nous pouvons nous souvenir qu'au cœur de cette prière, il y a le lien entre le pardon de Dieu et le pardon que nous pouvons accorder aux autres. Ce n'est pas un lien de marchandage, c'est que le pardon de Dieu nous apprend et nous permet et nous rend capables de pardonner. Voilà, nous allons maintenant avoir le temps de l'offrande par laquelle chacun est invité à participer concrètement. Voilà la marche pratique de notre Église, hein, qui ne vit que des dons volontaires et libres de chacun. Et pendant ce temps, nous présenterons les annonces. Et qui est chargé de les... Voilà. Donc j'invite.
Alors, comme vous voyez, le dimanche après le culte, je pense que la plupart d'entre vous, vous appréciez de boire un café. Mais il se trouve que l'équipe qui prépare les cafés est plus tout à fait assez nombreuse. Alors, si vous avez envie que ce service continue, ce serait bien de vous annoncer. Ce n'est pas très compliqué de faire des cafés. Alors, vous pouvez vous annoncer à André Dufour ou Elisabeth Becher. André, elle est là ou bien? Non, Elisabeth, tu peux te lever. Là, si... Voilà. Alors, merci d'avance aux bonnes volontés. Dimanche prochain, alors, le culte avec un repas canadien, comme c'est le premier dimanche du mois. Et il y aura une information pour les nouveaux membres. Alors, si vous nous avez rejoints depuis très peu de temps ou un peu plus longtemps, mais que vous ne savez pas très bien comment fonctionne notre Église, que vous aimeriez en savoir un peu plus sur les aspects spirituels, pratiques de la marche de notre Église, c'est l'occasion de vous renseigner. Alors, il y aura une première partie, juste après le culte, qui sera un peu plus court, une première partie d'information. Après, il y aura le repas canadien, donc ouvert à tout le monde, à ceux qui participent et à ceux qui ne participent pas à l'information. Et après le repas, il y aura une deuxième partie d'information. Donc, il n'y a pas besoin de s'inscrire puisque, de manière, c'est un repas canadien. Pendant les deux parties d'information, il y aura les enfants, les petits-enfants seront pris en charge. Donc, il ne faut pas que ça vous retienne. Si vous avez des enfants, des jeunes enfants, ils seront pris en charge pendant les deux parties d'information. Donc, voilà, c'est... ouvert à tous, si vous avez envie de connaître un peu plus ce qui se passe, alors vous êtes les bienvenus. Il faut profiter de cette occasion. C'est aussi un moment où vous pourrez poser des questions. Alors, voilà. La série de cultes, les prochains cultes, mais sous moi et l'Église. Donc, il y a déjà eu, dimanche passé, premier culte sur ce thème. Et le 22 septembre, des pauvres et des riches dans l'histoire biblique. Le 6 octobre, quant à l'argent, des rencontres percutantes de Jésus. Et le 27 octobre, des pistes dans le Nouveau Testament pour exercer la libéralité. Alors, le mardi 15 octobre, alors, invitation pour un voyage dans l'espace par Gérard Bancal, qui est un membre de l'église de Colonie. Donc, le fil d'argent, comme on peut s'en douter, c'est pour les aînés, mais ce n'est pas réservé qu'aux plus de 70 ans, ceux qui sont... qui ont le temps, qui sont intéressés, peuvent venir. Donc, trop tard, trop vite là. Donc, cette rencontre aura lieu ici, dans nos locaux, et sera suivie de la traditionnelle tasse de thé avec les non moins traditionnelles et excellentes pâtisseries. Donc, à 14h30, mardi 15 octobre, donc réservez déjà cette date. Ce sera certainement très, très intéressant. Ensuite, oui. Alors, WAN, donc la grande journée, grand rassemblement chrétien de Suisse romande. Le thème, laisse-toi infuser par Dieu pour diffuser le ciel sur la terre. Tout un programme. Donc, c'est une journée à Fribourg. Il y a beaucoup de... Il y a tout un programme très intéressant. Il y a des ateliers, il y a un... Le matin, il y a une célébration festive pour tous âges et des ateliers toute la journée et il y a un concert de gospel en fin de journée. Donc, pour cette journée, il faut s'inscrire. Il y a une finance à payer parce que voilà, ça représente quand même pas mal de frais. Et il y a un tarif préférentiel jusqu'au 30 septembre. Et le 30 septembre, c'est demain. Alors, si vous voulez vous inscrire, profitez-en. Il y a des papillons sur le présentoir à la sortie, tout comme pour la journée pour l'après-midi du fil d'argent. Alors, n'hésitez pas, tous les participants, tous ceux qui sont allés, n'attendent que ça d'une année à l'autre, cette journée de WANNA. Donc, on vous encourage à y participer. Je crois que Daniel...
Daniel
mot 16 octobre, c'est une rencontre qui est organisée à Mérin par un groupe de travail œcuménique et interreligieux qui se réunit au centre paroissial œcuménique de Mérin, donc au CEPOM, et dont je fais partie avec Claude Bécher, et on a aussi, pour ceux qui connaissent, Maurice Gardiol et Jean-Claude Basset, qui sont dans ce groupe de préparation, et vous propose cette rencontre au Livron sur la place des religions dans la société d'aujourd'hui. Voilà, c'est une réflexion tout à fait intéressante et qui sera introduite par Philippe Gonzalez, qui est un sociologue et qui habite à 100 mètres d'ici. Voilà.
Alors, Daniel, encore une information.
Juste des salutations des Sowell, Roger Sowell et sa femme, qu'on a eu le plaisir de rencontrer, Christine et moi, il y a 2 semaines, en passant à Entrepierre.
Alors, nous allons conclure ce culte avec la salutation finale de l'Épître aux Hébreux. Dieu a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, qui est le grand berger des brebis, grâce au sang de son sacrifice, par lequel l'alliance éternelle est garantie. Que le Dieu de paix vous rendre capable de pratiquer tout ce qui est bien pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise en nous par Jésus-Christ ce qui lui est agréable. À Jésus-Christ soit la gloire pour toujours. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à chacun.